Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison de Dieu. Nous allons commencer ce moment. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Merci encore, Dieu notre Père, pour tout ton amour envers chacun de nous. Merci pour cette invitation, cette convocation que tu nous fais encore ce matin. Et nous voulons vraiment accepter cette invitation et prendre plaisir, considérant la grâce que tu nous fais, de pouvoir nous réunir dans ta maison, te prier, te louer, te chanter. Merci, mon Dieu, pour tous ces soins constants que tu déverses envers chacun de tes enfants. Bien souvent, lorsque nous sommes bénis, nous ne nous rendons pas compte. C'est lorsqu'il y a un problème qu'on se dit, mais pourquoi ? Alors là, encore Dieu, notre Père, nous voulons vraiment te louer, t'adorer, te remercier. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, il est merveilleux. Qui est semblable à lui ? Quand nous voyons que même les anges dans le ciel louent l'Éternel, nous ne voulons pas rester la bouche fermée et ne pas le louer, ne pas lui rendre l'honneur, l'hommage qui lui sont dus. Jésus, tu es couronné. C'est un merveilleux nom, Jésus. Merveilleux nom.
Digne d'hommage, Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, 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 ton précieux nom est digne d'hommage.
Nous voulons proclamer qu'il est dans notre vie, il est notre consolateur, notre rocher, il est notre Dieu. Il nous délivre de nos obstacles, il est grand dans notre vie, il est fidèle. Consolateur, consolateur.
Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant,
Dieu trois fois saint,
sauveur vivant,
maître
souverain,
consolateur,
consolateur, divin rocher, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné,
commencement,
commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 oh,
Jésus,
Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, 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 merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux digne d'hommage. Couronné.
Amen. Jésus est couronné. Nous voulons nous rappeler qu'il est allé à la croix pour chacun de nous. Nous allons juste passer à notre moment de sainte cène. Je vous invite à vous mettre, à vous asseoir. Pardon. Nous voulons nous rappeler des paroles qui ont été dites dans 1 Corinthiens 11, versets 23 et 26, où il est dit ceci. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Pendant que les éléments circulent, soyez libres de prier. Je vais demander à notre frère Georges si tu veux prier pour le pain. Je vais demander à notre frère Claude si tu veux prier pour la coupe. Je m'associe à toutes ces prières qui sont montées, qui ont déjà aussi introduit le prochain chant. Effectivement, le sang de Christ nous libère, il nous sanctifie, il nous permet de nous approcher de Dieu. Jean 1, verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et cela nous rend libre, libre en Jésus-Christ. Nous allons chanter le prochain chant, « Libéré ».
Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Oui, je suis racheté. L'esclavage terminé. Je vis ma liberté. Héritier, oui, je suis héritier. Oui, pour l'éternité. Un enfant. Plus de condamnation. libération. Je suis libérée, rachetée en son nom.
Racheté en son nom. Sentez-vous libre de prier des siens. Ce nom, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Nous voulons dire aussi à Dieu que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Nous pouvons être agités. Nous avons vécu, nous continuons à vivre malheureusement encore des situations. Nous pouvons être agités, mais que la paix de Dieu nous inonde. Que son amour nous inonde. Que nous puissions vraiment nous décharger sur lui. Que tes vives eaux inondent mon âme. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose.
Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus. Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose
que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Oh, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, à tes pieds, à tes pieds. Mes soucis, mes fardeaux. Mes soucis, mes fardeaux. Hey. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. À tes pieds, je dépose. Amen.
Que cela ne soit pas juste une chanson, et que vraiment que nous puissions, à tes pieds, ô Jésus, nous décharger de nos fardeaux. À tes pieds, je dépose. Nous pouvons avoir beaucoup de connaissances, mais à un moment donné, il faut que nous mettions en pratique. Jacques nous le rappelle, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Nous voulons encore mettre en pratique ce que tu vas nous dire à travers la bouche de ton serviteur qui va nous parler de ta parole ce matin. Nous voulons le remettre dans tes mains, que tu puisses le bénir, que tu puisses encore nous parler de ta part. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen.
Bonjour bien-aimés. Oui, c'est au pied du Seigneur que nous déposons nos soucis et nos fardeaux. Jésus est le seul nom qui nous a été donné sur la terre du moins, afin qu'au travers ce nom, nous soyons sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. C'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père s'il ne passe par Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fortifie ensemble ce matin. Que pendant que nous avons fait l'effort d'être là ce matin à ce culte, que nous puissions vraiment laisser Dieu au travers cette première partie, cette louange, ce chant. Nous les chrétiens, quand nous chantons certes la mélodie, mais nous chantons surtout les paroles que nous dédions à notre Dieu et qui sont censées animer, enrichir notre foi, dire notre conviction, dire notre confiance en Dieu. Oui, le Seigneur est merveilleux. Même quand les jours sont mauvais, il reste le Seigneur merveilleux. J'aimerais nous encourager ce matin à cultiver ce que nous sommes. Depuis quelque temps, je dis ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Et je crois que c'est tellement évident que parfois il faut le redire pour que nous soyons non seulement ce que nous sommes, mais que nous vivions ce que nous sommes. Nous aimons à dire que les temps sont mauvais, mais ça fait 2000 ans que les temps sont mauvais. Ça fait 2000 ans que les temps sont mauvais. Et malgré ça, la grâce de Dieu est suffisante. Car ses compassions se renouvellent chaque matin. Et ses bontés ne sont pas épuisées. Amen. Vous savez, nous sommes des privilégiés. Des privilégiés parce que nous n'avons pas mérité ce que nous sommes. La Bible dit que le salut est un don gratuit de Dieu. Dieu accorde le salut à tout homme, toute femme, quel que soit son âge, qui se tourne vers lui. C'est lui qui lui donne. C'est lui qui a acquis ce salut par la vie de son Fils. Car le péché nous séparait de lui. À cause du péché originel d'Adam et Ève, tout être humain naît malheureusement avec cette condamnation qui plane au-dessus de sa tête. À la fin de nos jours, nous sommes tous condamnés, malheureusement, à être loin de Dieu, selon Romains 3, 23. Car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et il dit, il n'y en a même pas un seul. Il n'y en a même pas un seul. Mais la Bible dit que Dieu, dans sa grâce, n'a pas laissé les choses en l'état. Il n'a pas cessé de venir nous chercher. Et nous sommes environ, quand on fait les statistiques qui datent maintenant de 2019, nous sommes environ 4 à 5 millions de chrétiens en France. Quand on sait qu'il y a 60 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y a 56 millions d'habitants en France qui n'ont pas le Seigneur. Qui nous sommes, nous, pour avoir ce privilège d'être parmi les 4 millions. Qui nous sommes? C'est une grâce. C'est une grâce. Et si Dieu nous a fait cette grâce, alors qu'il nous aide à la vivre cette grâce-là. J'aimerais que nous puissions prier avant d'aller plus loin. J'aimerais demander si elle veut bien, Monique. Tu veux prier avec nous, Monique, s'il te plaît.
Nous pensons aussi, Seigneur, à nos frères et sœurs qui sont de par le monde, qui se réunissent en ce moment, en ton nom.
Merci, Jésus. Seigneur,
accorde ta bénédiction. Seigneur, dispose nos cœurs. Remplis notre esprit, Seigneur. De suffisamment, Seigneur, de l'entendement et de la connaissance, Seigneur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, Seigneur, vivre pleinement.
Amen. Il y a des événements qui vous font réfléchir sur votre vie. Le sage a dit, des fois, le deuil, c'est une maison qui nous fait réfléchir sur notre existence. Lorsque nous accompagnons des êtres chers et que nous les voyons partir, même si l'espérance, quand ils sont dans le Seigneur, est une espérance qui nous fortifie, parce que nous avons cette conviction et nous savons où ils vont, nous sommes quand même dans la peine de les voir partir. Quand nous regardons un visage qui a été si familier, si proche de nous, et que nous le voyons dormir pour ce dernier sommeil jusqu'à ce que nous le revoyons, ça fait quelque chose. Mais ce qu'il y a de puissant dans ce genre de moment dont parle l'Ecclésiaste, c'est que justement, celui qui est parti, il est parti. Et si c'est un chrétien, il est auprès de son Seigneur. Et que la charge reste à nous qui sommes restés vivants. D'honorer la mémoire de cette personne si elle était chrétienne et de rester attentif à son message qu'elle nous a laissé. Puisque si elle était chrétienne, elle n'a cessé de nous dire « Mon Rédempteur est vivant, mon salut est dans le Christ ». Et nous avons encore du chemin. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Jusqu'au bout, je suis resté fidèle à mon Dieu. Et je sais que le jour où mon départ arrivera, je sais déjà, pas avec une prétention exagérée, mais parce que Dieu m'a gardé fidèle, que la couronne de victoire m'est réservée. Il dit non seulement à moi, mais à tous ceux qui, comme moi, auront aussi persévéré et gardé la foi. Que le Seigneur fortifie tous nos bien-aimés qui, dans cette période, ont perdu des êtres chers. Que l'espérance chrétienne, qui est une vraie espérance, car elle est réelle, car elle est vraie, soit votre force, soit dans cette douleur, compassation de cette douleur en disant « Oui, je suis peiné. Mon mari, mon frère, ma sœur est partie et je suis attristé. Et pourtant, je reconnais là où elle est en paix, il est en paix. Il est là où il n'y a plus de grincement dedans, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de maladie, là où il n'y a plus de souffrance. » Et l'apôtre Paul a pu dire, si on me demandait où je veux être, il dit, pour moi, la réponse, elle est claire. Je veux être auprès de mon Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Pour l'instant, il m'a dit de rester ici et de continuer l'œuvre qu'il m'a confiée. Nous qui sommes restés, qui sommes là, c'est notre trajectoire maintenant. Garder la foi, persévérer, marcher dans le Seigneur. Quand on sait des fois que ceux qui sont partis pour quelques ans, que nous avons accompagné ces temps-ci, dans la maladie. Et pourtant, ils étaient fidèles, gardant leur foi en Dieu, persévérant, même sur les lits d'hôpital, disant leurs convictions. Avons-nous le droit, nous qui sommes plutôt bien portants, de faire moins qu'eux ? Non, que Dieu nous fortifie. Que le Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit, Seigneur, car c'est de celui-là qu'il s'agit, l'Esprit du Dieu vivant, cette conviction, cette force qu'ils ont eue, leur venait de leur communion avec l'Esprit de Dieu. Les bien-aimés, l'Esprit de Dieu n'est pas juste une appellation, c'est pas juste une évocation, c'est une vraie réalité. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, 17, « Je vous enverrai un paraclet, je vous enverrai la troisième personne de la Trinité qui, elle, sera avec vous jusqu'au bout. » C'est elle qui vous fortifiera, c'est elle qui vous convaincra, c'est elle qui vous portera, c'est elle qui vous défendra, c'est elle qui sera votre ressource. Alors, que le Saint-Esprit nous fortifie tous ensemble sur la terre. Je vais inviter le groupe de louanges, nous allons chanter. Que ton Saint-Esprit, que tes vives d'eau inonde notre âme. Et j'aimerais que nous puissions chanter avec, comme nous l'avons fait tout à l'heure, avec une conviction particulière. Que chacun de nous puisse inviter cette source d'eau qui vient de Jésus-Christ nous inonder. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin que sa présence nous porte. Nous avons besoin qu'il nous transcende, car il n'y a que lui seul qui peut le faire. Mais que nos cœurs soient ouverts. Que nous soyons disposés, disponibles pour le laisser le faire. Et ensuite, Nous méditerons Éphésiens chapitre 2, les habitudes du cœur. Que ta vie vive, oh Seigneur. Merci, notre Dieu.
Tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives,
que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, Jésus, Jésus. Situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, 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 Jésus.
Les habitudes du cœur, enracinées et fondées dans l'amour. Vas-y Sarah, s'il te plaît. Oui, les bien-aimés, il ne suffit pas juste de saisir intellectuellement dans notre raison les fondements de notre foi et même de l'ensemble du plan de Dieu. Il faut que cela nous habite profondément, que notre cœur en soit convaincu et que nous puissions voir dans notre quotidien les transformations que cette réalité manifeste dans chaque facette de notre vie. Au fur et à mesure que nous maturons en tant que chrétiens, nous devons voir des changements, des transformations, nos vies ressembler petit à petit à la vie du Seigneur. Nous sommes des disciples. Le disciple, c'est un apprenti. Nous sommes des apprentis de Jésus. Ça veut dire que chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, nous devons ressembler petit à petit à Jésus. En Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, il dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et le moyen par lequel cette faveur de Dieu vous sauve, c'est la foi avec laquelle vous y croyez. Finalement, si vous êtes sûr d'aller au paradis de Dieu, ce n'est pas parce que vous le méritez. C'est Dieu qui a décidé de vous offrir cette faveur que vous acceptez en lui faisant confiance. Être sûr de vivre éternellement auprès de Dieu dans ce lieu paradisiaque ne se mérite pas. Ce n'est pas une récompense, encore moins le salaire des œuvres que vous auriez accomplies. C'est pourquoi aucun de ceux qui sont sûrs d'être avec Dieu dans les cieux ne peut dire « je mérite d'être au ciel ». C'est une juste récompense, un juste salaire. Non. Être finalement dans l'état que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, nous le devons à Dieu. Car en accordant cette faveur dans laquelle nous avons mis notre confiance, nous avons été unis spirituellement à Jésus-Christ pour que notre vie et notre œuvre désormais soient la manifestation concrète de la bonté que Dieu a toujours voulu que ses enfants incarnent. Le Christ qui habite en notre cœur. Le Christ qui habite en notre cœur. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. L'apôtre Paul écrit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul avait, nous l'avons déjà vu dans un autre épître, il aimait prier pour les chrétiens, il aimait demander à Dieu que les chrétiens comprennent ce qu'ils sont. Demander à Dieu que chaque chrétien ait les yeux spirituels ouverts pour voir le privilège qu'il a et pour voir toute la capacité que Dieu a déjà mis en lui pour qu'il ait cette capacité éclore et se manifester. Que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. C'est-à-dire que nous soyons finalement fondés solidement dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour son peuple. Un amour qui se caractérise profondément par le don de soi. Par le don de soi. L'amour de Dieu est un amour qui donne, pas un amour qui attend. Et lorsque nous commençons à rentrer en relation avec Dieu, ce qui est formidable, c'est que ce Dieu n'est pas un pur esprit, une pure idée qui serait quelque part. Ce Dieu, il est là, présent, chaque jour. Ce qu'il désire, c'est de communier avec chacun de nous. C'est pour cela qu'il nous a créés. C'est un Dieu relationnel. Il nous a créés pour communier avec nous. C'était son plan depuis le début. Les livres de Genèse nous disent que chaque jour, il venait communier avec Adam et Ève. Et quand le péché s'est matérialisé, cette désobéissance, il était triste. Parce que la fois où il est venu communier avec Adam, Adam n'était pas là. Il dit, Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ? Adam dit, j'ai entendu le bruit de ta présence arriver et je me suis caché. Il dit, oh, depuis quand tu te caches, Adam ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà d'où est partie notre rupture de relation avec Dieu. Que Dieu nous aide. Il est un Dieu qui veut communier avec nous. Il dit donc que Dieu, dans sa grâce, ouvre notre intelligence. Ouvre notre âme pour que notre âme puisse discerner toute la plénitude que Dieu a posée en chacun qui lui fait confiance. pour que nous puissions discerner combien cet amour est large, long, profond, haut. Quand il parle de longueur, certains commentateurs disent que cette longueur, c'est l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Cette espérance qui est née bien avant la fondation du monde. La Bible dit, bien avant la fondation du monde, Dieu vous avait destiné. Bien avant la fondation du monde, Dieu vous connaissait. Bien avant la fondation du monde, Dieu vous avait privilégié. Car tous ceux qu'il a appelés, tous ceux qu'il a aussi destinés, il les a mis à part. Notre espérance ne vient pas du jour où nous avons rencontré le Seigneur. Notre espérance vient bien avant notre naissance. Alléluia. Car Dieu nous connaît chacun par son nom. Et le prophète a pu dire, avant même que mes parents aient l'idée de me concevoir, tu me connaissais. Alors que j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Quel privilège. Cette espérance, elle est longue. Elle vient de avant la fondation du monde. Elle continue jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu dans l'infini. En mathématiques, on définit l'infini comme une période, sinon un point sur ce repère qu'on ne peut pas définir. On met une flèche comme ça pour dire moins l'infini, et on met une autre flèche pour dire plus l'infini. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va. Et Dieu dit que nous sommes dans ce temps infini, qu'il nous a introduit dans ce temps-là. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle ce plan éternel de Dieu. Mon frère et ma sœur, toi qui es assise là ce matin, tu fais partie du plan éternel de Dieu. C'est incroyable. La Bible dit que ça ne dépend pas des temps et des circonstances, mais c'est un fait que nos noms sont écrits dans le livre de Dieu. C'est un privilège. Et il cherche à ce que tous ceux qui entendent ce message fassent partie de ce plan. Et nous, nous avons la grâce, nous avons été exposés à ce témoignage et nous avons répondu favorablement. C'est une grâce. Il dit que cet amour est d'une largeur qui nous dépasse. Cette largeur manifeste le fait que finalement l'Église n'est pas liée à une couleur de peau, n'est pas liée à un continent, n'est pas liée à une ethnie particulière. Tout être humain, où qu'il soit dans le monde, s'il accepte Jésus, il fait partie de ce plan de Dieu. C'est incroyable. Ce n'est réservé, c'est pas réservé à une petite catégorie, non. Car tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu. Et c'est large, c'est tout ce, c'est un spectre assez large de tout être humain, où qu'il soit, qui qu'il soit, peu importe notre condition sociale. Nous faisons partie de ce plan de Dieu. Alléluia. Il parle de cette hauteur qui nous dépasse. Christ est ressuscité. L'image que nous avons, on dit, certaines religions disent qu'il est descendu aux enfers. Non, il n'est pas descendu aux enfers parce qu'il n'a rien à voir avec les enfers. Mais la Bible dit qu'il est descendu dans les endroits les plus profonds de la création pour délivrer tous ceux qui étaient captifs. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et il est resté plusieurs jours sur la terre, et bien plus, il est remonté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc cette hauteur, elle n'a pas de dimension, puisque Christ a traversé tout ce qu'il y a comme profondeur et tout ce qu'il y a comme hauteur. Il ne peut pas être limité dans là où il peut agir. Le psaume dit, où me cacherai-je loin de toi? Irai-je au désert? T'y voilà. Même si j'ai dit à la terre de m'engloutir, là encore, te voilà.
Si je dis que tout soit obscurité, tout à coup, la lumière apparaît parce que là aussi, dans l'obscurité, tu es là. Où irais-je loin de toi? Il n'y a pas de lieu où on peut se cacher de Dieu. Et c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il veille sur nous où que nous soyons. Où que nous soyons, il veille sur nous. Finalement, ça parle de cette profondeur, ça traverse même la mort. Même la mort. Parce que la chose la plus profonde dans l'incompréhension de notre humanité, c'est la mort. Pour l'instant, c'est un mystère qui reste entier. Et Dieu seul sait que les scientifiques y travaillent. Mais ça reste entier parce que c'est d'une profondeur qui nous dépasse. Mais cette profondeur ne dépasse pas le Christ. Parce qu'il est mort, bien plus, il est ressuscité. Il dit, dans l'Épître aux Hébreux, « Mort, où est ton aiguillon ?» Parce qu'il a vaincu la mort. Et donc, nous pouvons avoir confiance. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts. Ils se reposent de leurs œuvres. L'apôtre Paul peut dire dans l'Épître aux Thessaloniciens, frères, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants et que vous soyez comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car ceux qui sont morts en Christ, au jour de sa deuxième venue, au son de la trompette, ils seront enlevés pour le rencontrer dans les nuées et tous ceux qui seront vivants en Christ, la deuxième vague se lèvera vers lui. Et plusieurs textes nous parlent de ce repos, ce repos. Ce repos. Ainsi, notre relation avec le Christ, avec Jésus, doit bouleverser notre cœur. Nous devons comprendre que Christ, il est celui qui veut vraiment être notre ami, notre compagnon, C'est ce Seigneur qui à la fois, c'est incroyable, il est le Seigneur, il a autorité sur tout. Et pourtant il dit à ses disciples, je suis le Seigneur, mais je vous dis vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis parce que je vous confie des choses qu'on ne confie pas à ses serviteurs. Et il dit à son père, tu m'as dit, qui ira libérer notre création? Et j'ai dit, envoie-moi Père, pour que je sois quoi? Je sois le premier né de tous mes frères et de toutes mes sœurs. Christ est notre frère aîné. C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes co-héritiers avec lui. C'est incroyable, hein? Il nous a mis dans son héritage. Jésus-Christ a mis dans son héritage. C'est pourquoi la Bible dit que les anges, ceux qui sont déchus, savent le privilège qu'ont les humains. Parce que les humains ont une dignité qui est au-dessus de celle des anges. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas juste une histoire où on dit fils et fille de Dieu, habille-toi bien, tu es une princesse, ça n'a rien à voir. C'est la dignité que nous avons qui fait que nous avons cette relation exceptionnelle avec Dieu. Exceptionnelle avec Dieu. Ne vous privez pas de cette relation. Lui, il est disponible. C'est pour cela, moi, quand je réfléchis, je dis, mais pourquoi il est venu comme l'un d'entre nous? Christ aurait pu naître dans un palais où personne ne pouvait accéder à lui. Il est né dans une étable, dans une crèche, pour que tous ceux qui veulent accéder à lui, accèdent à lui. Et dans cette nuit-là, les bergers ont accédé à lui. Les princes qui sont quittés d'Orient ont aussi accédé au Christ. Toutes conditions humaines accèdent au Christ. Parce que lui, il est le frère de tous les êtres humains. Alléluia. C'est un privilège. Alors que nous puissions laisser Christ habiter notre cœur, transformer nos cœurs. Le prophète dit que vos cœurs sont des cœurs de pierre, mais Dieu veut en faire des cœurs de chair. C'est-à-dire que nos cœurs sont si durs, si fermés, pleins de violence, pleins de choses qui finalement nous rendent mauvais. Et Dieu veut le changer. Et c'est pour cela que dans cette prophétie dont a parlé l'apôtre Pierre à la Pentecôte, qui fait écho à celle de ce prophète, c'est désormais, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, vos cœurs sont devenus de cœurs de chair et la parole de Dieu a pu être gravée sur ces cœurs de chair. Alléluia. Nous sommes devenus des êtres dociles entre les mains de Dieu pour que nos vies soient à son image, des vies remplies de l'amour de Dieu. Vas-y Sarah, s'il te plaît. Cultivez les habitudes de cœur dans votre vie personnelle. Colossiens chapitre 3. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez dans les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous, ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale ou impure, désirez des choses honteuses et mauvaises, cherchez à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Verset 9. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé, comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Amen. Ah, les amis. Que tes vives eaux inondent mon âme. Et que cette source d'eau puisse, comme quand il y a un torrent propre, que cette source d'eau puisse balayer en vous tout ce qui est saleté, tout ce qui est impureté. Et que vous soyez purs, lavés, limpides. Et que votre cheminement avec Dieu soit restauré, renouvelé par son amour en nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes de ceux dont on dit, regardez comment il s'aime. Regardez comment il s'aime. Est-ce que c'est vrai que nous nous aimons? Bien sûr que c'est vrai. 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 Même si des fois on peut en douter, mais dans l'ensemble c'est vrai, puisque nous sommes en construction, nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin. Notre mode de vie, dans un mode de vie personnel, ma vie personnelle doit être transformée à l'image de Jésus-Christ. Être à l'image de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que demain, ça ne veut pas dire que dans l'heure où je vais sortir de ce culte, tout aura changé. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je sais où je vais. Je sais à qui je veux ressembler. Je suis X, je suis Y. Ma personnalité sera X, sera Y. Mais mon caractère, mon comportement, ma façon de penser sera renouvelée par celle de Jésus-Christ. Pour que tout en gardant mon identité propre, mes valeurs, mon comportement, mon caractère soit modelé dans l'amour de Dieu. Que dans ma vie personnelle, mon désir le plus ardent ce soit d'aimer Dieu et que parce que j'aime Dieu, que Dieu me donne la force d'aimer mon prochain. Et mon premier prochain, c'est ce que Dieu m'a donné en proximité, c'est la famille. Que Dieu nous aide. Cultiver cet amour, cette habitude au sein de nos foyers, c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Puisque notre premier prochain, c'est dans le foyer que ça se manifeste. Quelqu'un a dit, je crois qu'il a raison, que le laboratoire pour nous qui sommes chrétiens, le premier laboratoire où nous travaillons, où nous manipulons l'amour de Dieu, c'est dans notre famille, c'est dans notre foyer. C'est là que nous sommes appelés à manifester premièrement cette habitude de cœur transformé. C'est dans nos foyers. C'est dans nos foyers. Dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 17 jusqu'au 6, verset 4, il est dit « Ne soyez donc pas intelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. En tout cas, chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même et la femme respecter son mari. » Enfin, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Voilà ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Afin que tu aies bonheur et longue vie sur terre. Vous, parents, ne révoltez pas vos enfants. Mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Nous sommes dans une invitation. On a besoin de la grâce de Dieu. Nous avons un défi. Nous, les chrétiens, nous avons un défi. Nous avons dit aux gens, lors de notre baptême, que nous voulons suivre Jésus et que Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Alors, notre défi, c'est de vivre l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours nickel, on sera toujours les meilleurs. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on a un objectif et que cet objectif-là, on va demander toujours à Dieu de continuer à faire en sorte que par la présence de son esprit, nous puissions continuer de vivre cet objectif-là. L'amour, au-delà de l'émotion, du sentiment qu'il est, c'est une responsabilité. Si j'ai décidé d'aimer une femme, c'est une responsabilité. Si j'ai décidé d'aimer un homme, c'est une responsabilité. Au-delà de l'émotion et du sentiment qui va avec. Si Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants, c'est une responsabilité de les aimer, de les porter. Ça va avec. Si Dieu m'a fait naître dans une famille avec des frères et des sœurs, c'est une responsabilité. Dès que mes yeux s'ouvrent en tant que chrétien que je suis dans une famille, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs. Essayons de ne pas être modélés par notre société qui dit « ta vie, lorsque tu es majeur, elle appartient à toi tous ceux. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça fait que finalement, qu'est-ce qui se passe? On attend des événements dans l'année pour voir les frères, pour voir les sœurs. C'est incroyable. Hein? À Noël, il y a cette grande braderie. Enfin, c'est pas le bon mot. Bref, à Noël, tout à coup, on devient famille. On se réunit tous, tout le monde il est content, tout le monde il est joyeux, tout le monde il est beau. Et on dit même dans certaines familles, laissons les histoires de côté pour fêter Noël. Après Noël, on reprend les histoires. Waouh! C'est comme ça se passe, hein? Il y a certaines familles, c'est qu'à Noël qu'on se voit. Parce qu'on n'a pas le temps de s'appeler, même de s'appeler. Si nous sommes chrétiens, non les frères. Nous sommes de ceux qui sont modélés par l'amour de Dieu. Jésus a eu cette parabole très forte. Il dit, quand il y a une seule brebis qui se perd, qu'est-ce qu'il fait? Il met les 99 en sécurité et il va chercher la seule qui est perdue. Et quand il la retrouve, il revient, il dit, il y a la fête au ciel pour cette seule brebis que je suis allé chercher. Mais bien aimé, dans nos familles, nous devons être cela. Nous devons être comme ça. Mais les forces peuvent nous manquer. Demandons à Dieu cette force-là. Dieu ne nous a pas fait naître dans nos familles par hasard. Non. Non. Le texte que j'ai lu dans Éphésiens 3 le dit bien. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. Tire son nom toute famille. Dieu connaît chacune de nos familles. Que nos foyers soient éclairés par la présence de Dieu. Le foyer ici, c'est le couple, mais c'est au plus large que le couple. C'est toutes les personnes qui sont en relation dans une famille. Vous savez, le foyer, c'est cette image de tout ce bois qu'on met ensemble qui forme un feu. Hein? C'est ça le foyer. tous ces bois avant qu'on met comme ça, et le feu s'allume. Et quand on retire chaque... Qu'est-ce qui se passe? Bah, le feu, il s'éteint. C'est ensemble qu'on fait famille. Soyons des artisans de paix dans nos familles, bien-aimés. Demandons la force à Dieu. Soyons des liens d'amour dans nos familles. C'est vrai, des fois, ce n'est pas évident. Des fois, ce n'est pas facile. Vous savez, Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en Afrique du Sud, il a dit, ce n'était pas facile. On est né dans un pays où on était déjà destiné à être rien. Mais parce qu'on était des chrétiens. Et lui, il a été pasteur évêque. Il dit, parce qu'on avait l'amour de Dieu, on a cherché cet amour et on a vu le jour où Dieu a répondu à nos prières. Nous avons persévéré et nous avons réuni ce qu'on appelle la nation arc-en-ciel. Il y a des gens comme ça qui ont réussi ça. S'ils ont réussi ça dans un monde compliqué, pourquoi nous ne sommes pas convaincus que nous pouvons le réussir dans nos familles? On n'est pas des Desmond Tutu, non. Mais on est ce qu'on est. Mais rempli de quoi? De la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. J'aime cette parole, la parole de Dieu qui dit dans la vérité et dans l'amour. L'amour n'exclut pas la vérité que des fois on doit se dire. Mais le dire de façon constructive. Vous savez, les fois où on dit, moi je lui ai dit ma vérité. D'accord, mais quel est le but derrière de dire cette vérité-là? C'est de construire? Non. Parfois, la façon dont on dit la vérité, c'est... C'est pas constructif. C'est pas que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est on peut toujours choisir comment on dit les choses. Parce qu'on veut construire au lieu de détruire. Un artiste chrétien dans un rap a dit, waouh, il dit, nos paroles sont comme, des fois, une kalachnikov bien chargée. Parce que les mots que nous dépitons à tort et à travers sont comme des balles qui font des victimes. Ils sont comme des balles qui font des victimes. Il dit alors, comme le dit l'épître de Jacques, sachons bien manipuler ce petit organe qu'on appelle la langue. Il dit la langue est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Parce que de cette source peut sortir une eau pure, mais aussi une eau empoisonnée. Mais nous avons les vives eaux, n'est-ce pas? Que tes vives eaux inondent mon âme. Il dit que de nous doit sortir une eau pure. Il dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Pour que tant que cela dépend de vous, vous soyez des artisans, pas de colère ni de médisance, mais de bonnes paroles. Ah ben, on n'est pas toujours capable, c'est pas grave. L'objectif, c'est de toujours essayer d'être meilleur. Avec la force du Saint-Esprit. Avec la force de Dieu. Amen. Vas-y. Et nous avons besoin aussi de ces saines habitudes dans la famille de l'Église. L'Église de Dieu. Pourquoi est-il si important de se réunir régulièrement avec la famille de l'Église? Le fait que nous ayons choisi de croire et d'être baptisés pour certains d'entre nous et pour d'autres en cours d'être baptisés implique que nous serons soumis immanquablement à une pression quelconque d'abandonner la foi. C'est-à-dire, dès le premier jour où Dieu nous a rencontrés, où nous avons fait confiance en Dieu, le défi, le combat pour nous, c'est d'abandonner la foi. Il y a tellement de choses qui peuvent nous faire abandonner la foi. Et des fois, on peut se convaincre qu'on ne va pas à l'église, mais qu'on n'a pas abandonné la foi. C'est peut-être vrai. Mais, il y a une conviction que Dieu m'a donnée avant que je sois pasteur, c'est que l'église, c'est ma famille, et que si je veux persévérer longtemps dans ma foi, il faut que je garde toujours un lien avec une église locale. Et je crois que Dieu m'a béni pour cela. Parce que je suis reconnaissant à Dieu d'avoir toujours été dans une église locale. Vous savez, il n'y a pas d'église parfaite. Il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui sont là avec leurs qualités, mais aussi leurs limites et leurs défauts. Mais avec l'espérance que Dieu nous change chaque jour que nous sommes ensemble et qu'il nous rendra meilleurs. Et que nous voulons ensemble faire sa volonté. C'est de ça qu'il s'agit. Ensemble. Ensemble. Main dans la main, bras dans la main. Soutenir les uns les autres.
Que Dieu nous aide à comprendre. Je le dis depuis quelques dimanches, l'Église n'est pas une option. Ça dit, je ne fais pas l'option de dire, je viens à l'Église, je ne viens pas à l'Église. Ça fait partie de notre identité. Si tu es chrétien, tu dois venir à l'Église. Je ne parle pas des conditions qui font qu'on n'a pas forcément professionnellement. Je ne parle pas de ça, vous m'avez compris. Vous m'avez compris, on ne parle pas de ça. Mais faisons en sorte que ces conditions-là ne soient pas non plus un argument pour ne pas le faire. Parce que venir ici, c'est enrichir l'Église. Quand vous venez, vous bénissez vos frères, vous enrichissez. Vous savez, quand on est arrivé ce matin, moi je suis arrivé un peu en retard. Ah, j'ai dit, mais où sont les frères? Les bancs étaient un peu... Ça fait toujours quelque chose quand on ne voit pas les frères. Ça nous enlève toujours quelque chose de ne pas les voir. En tout cas pour moi, mais je pense aussi pour beaucoup d'entre nous. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. L'Église, c'est la maison des enfants de Dieu. Amen. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Nous avons besoin les uns des autres. C'est ensemble qu'on fait Église. Sans vous, sans nous, il n'y a pas Église. Parce que l'Église, on finit par le dire, ce n'est pas les quatre murs. Les quatre murs, c'est un lieu dont nous avons besoin. Mais l'Église, c'est d'abord nous, vous et moi. Ne vous privez pas, les bien-aimés. Ne vous privez pas. J'ai fait cette réflexion quand on était à la faculté de théologie. On a un collègue qui a rendu son témoignage. Il était un grand financier. Puis le Seigneur, sa femme était chrétienne depuis, elle priait pour sa conversion. Et il s'est converti. Il s'est converti et même Dieu l'a appelé au service. Il a tout abandonné. Aujourd'hui, il est pasteur du côté de Valence. Mais il disait, moi, les dimanches matins, avec mes copains, vélo. Tous les dimanches. Donc quand ma femme disait l'Église, je dis, mais c'est pas possible, l'Église, les copains, on va faire du vélo les dimanches. Et ça m'a tellement marqué parce qu'il dit, tous les dimanches, on faisait du vélo. Il dit, c'était un peu notre religion. Le jour où on n'allait pas faire du vélo, dimanche, on était triste. Donc, pour une activité comme ça, ils ont pris l'option de ne pas avoir d'option. Tous les dimanches, vélo. Mais nous, les chrétiens, on a le choix. Les dimanches, on peut ne pas venir à l'église. Voilà, c'est pas grave. Hein. De toutes les façons, l'église, c'est moi aussi. Hein. Au fond de mon lit, je suis à l'église. C'est faux, tu n'es pas à l'église. Et je dis une fois de plus, je ne suis personne, je ne parle pas des conditions qu'il faut qu'on ne peut pas venir, je ne parle pas de ça. Je parle de cette insinuation de notre adversaire qui veut nous faire croire qu'on peut vivre une vie chrétienne sans l'Église. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Si je suis sincère avec vous, je peux vous dire, ce n'est pas vrai. Je peux faire venir ici les plus âgés d'entre nous qui ont peut-être 40 ans, 50 ans de communauté chrétienne et vous diront, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Parce que l'Église, c'est les enfants de Dieu, c'est tous les enfants de Dieu. Et l'Église a besoin de vous et vous avez besoin de l'Église. Enfin, pour terminer, cette habitude de cœur, elle n'est pas que dans cette sphère, elle est aussi au travail, dans tous nos lieux de vie. Ok ? Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25 dit, « Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites d'ailleurs à l'égard de tous les frères dans la Macédoine entière. Nous vous exhortons, frères, à faire encore de nouveaux progrès. Ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Donc il dit, même dans votre sphère professionnelle, académique, là où vous soyez, vous êtes aussi là. Comme un témoin de Jésus. Faites votre travail comme une vocation. Faites-le avec votre cœur. C'était dur. Même l'apôtre Paul disait ça des esclaves de l'époque. C'était dur. Il disait aux esclaves de l'époque, je sais que ce n'est pas ça que Dieu veut pour vous. Mais pour l'instant, dans votre condition là, faites-le comme si vous faisiez ça pour le Seigneur. Pas dire ça à un esclave. Et pourtant, il a dit. Mais plus tard, il va dire à Onésime, lorsqu'il parle de cet esclave qui a été libéré et qui est venu le voir, il dit, tu sais, cet esclave-là, c'est plus ton esclave, c'est ton frère. Parce que dans le Seigneur, il n'y a ni esclave, ni homme libre. Et tant que tu peux lui donner sa liberté, donne-lui sa liberté. Donc, même dans le milieu professionnel, nous sommes invités à avoir des attitudes, des habitudes qui manifestent que nous sommes des
chrétiens. Ça ne veut pas dire que nous sommes des paillassons. Parfois, on confond. On confond parce qu'on est des chrétiens, donc on doit tout accepter. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le chrétien, quand il y a des injustices dans son travail, il doit le dire, mais il doit le dire avec la façon chrétienne. Il doit le faire avec la façon chrétienne. Parce que nous sommes aussi des artisans de paix et nous ne souhaitons pas être des agents d'injustice ni d'être aussi impactés par les injustices des autres. Des fois, on va le dire. Des fois, on va le décrier et puis quand même le subir en espérant que Dieu est capable de changer la situation. Et Dieu sait, et il y en a plein de témoignages ici, si je donnais le micro à chacun, vont vous témoigner les injustices dans lesquelles ils ont été. Ils les ont décriées, mais ils les ont subies, mais Dieu a glorifié son nom. Amen. Il y a un texte qui est dur, mais c'est un texte de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, comme le Seigneur vous l'a dit, parce que c'est le Seigneur Jésus qui dit, il dit, aimez vos ennemis. Et l'apôtre Paul dit, priez pour vos ennemis. S'ils vous demandent de l'eau, donnez-les à boire. Parce qu'en le faisant, qu'est-ce que vous faites? Il dit, vous amassez des chardons ardents sur leur tête. Wow. Ça veut dire que s'ils continuent de se dresser contre vous avec cette injustice, Dieu va les récompenser de leur injustice. Mais s'ils se détournent de leur injustice, Dieu va leur faire grâce et Dieu va vous soulager. Donc, quand quelqu'un s'en prend un enfant de Dieu, il ne sait pas à qui il s'en prend, c'est pour ça. Il ne s'en prend pas qu'à cet enfant de Dieu qu'il voit, il s'en prend à son père qui est derrière lui. Et c'est pour cela que nous devons avoir ce cœur pour prier pour nos ennemis, parce que si Dieu décidait, vous savez, des fois, nous on est des chrétiens, donc on est des parents doux, mais si tu vois quelqu'un en train de faire du mal à ton enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, vas-y, fais-lui du mal. Et certains parents, on est toujours un peu comme ça. Mais c'est toi qui l'as cherché. Non! C'est pas ça. C'est de protéger d'abord l'enfant, tout en sachant quelle est la vérité. Protège d'abord l'enfant. Et puis ensuite, on essaie de voir la vérité. Mais on a toujours ce réflexe. Nos enfants nous coûtent cher. Et nous coûtons cher aux yeux de notre Père. Au point même où le psaume 116 dit, car la mort des fidèles a du prix aux yeux de leur Dieu. Te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Nous avons besoin d'être renouvelés par tes vives eaux, notre Dieu. Merci parce que nous sommes des privilégiés et donne-nous de marcher à ta suite. Tu n'es pas là pour nous culpabiliser, mais tu es là pour nous dire, ma fille, mon fils, je t'aime et je veux marcher avec toi. Et je veux te montrer que le chemin que tu as choisi, c'est le bon. Et je veux être devant toi pour te guider. Merci Seigneur parce que tu le fais. En Jésus-Christ. Amen.